Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil d'Italie, car comme la dernière fois, nous allons rencontrer aujourd'hui des productrices, réalisatrices, scénaristes italiennes. Et oui, elles sont présentes ce début de XXe siècle et ne pensez surtout pas que vous en avez fini aujourd'hui avec elles. Alors après Giulia Cassini-Risotto, Elvira Notari, Elvira Giallanella, je vois s'approcher de nous Francesca Bertini, encore une réalisatrice, productrice, scénariste, actrice italienne, notamment de théâtre, née en 1892, de son vrai nom Elena Serracini Vitiello. Alors figurez-vous qu'elle fut une star internationale du cinéma muet et qu'elle a interprété à l'écran des personnages littéraires, comme la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas ou Eugénie Grandet d'Honoré Balzac, entre autres. Et de plus, sa beauté brune, ténébreuse, se prêtait à ravir au rôle de tragédienne. Alors il faut dire qu'elle commença sa carrière très jeune, car elle baignait, grâce à ses parents, un père accessoiriste et une mère actrice, dans le milieu théâtral. Du théâtre au cinéma, il n'y eut qu'un pas, qu'elle franchit sans doute allègrement pour tourner dès l'âge de 12 ans dans des courts-métrages. Ensuite, elle intégrera la firme Pathé pour jouer également dans de longs-métrages, notamment dans celui intitulé « Histoire d'un Pierrot » de 1914. Alors elle a 21 ans et joue sous la direction d'un réalisateur nommé Baldassare Negroni. Alors, il semblerait qu'elle interpréta le rôle de Pierrot, cet être lunaire au visage pâle, féminin et sensible. Bon, ensuite, elle ne fit que progresser en tournant avec les plus importants réalisateurs italiens de son temps. Elle connaîtra un franc succès grâce à son interprétation dans un long métrage de 1915 intitulé « Assunta Spina ». Et après quelques films et toujours succès, elle fondera sa propre maison de production en 1919, la Bertini Film, qui lui apportera une très belle réussite financière. Et à ce moment, elle régnera en maîtresse dans le monde cinématographique en se permettant une totale liberté, celle d'un être indépendant, financièrement autonome et donc qui n'a besoin de personne. Elle pourra s'offrir le luxe de choisir ses réalisateurs, ses acteurs, ses rôles, les films qui lui plaisent. Elle participera au scénario, enfin, etc. Et en tout, elle produira une dizaine de films. Alors elle sera admirée, deviendra un modèle pour toutes les autres femmes d'Europe et même des États-Unis. Elle tournera également à l'étranger, notamment en France. Et dans la foulée, convolera avec un Suisse richissime en 1929 qui ne fera qu'accroître encore son aura et sa fortune. Alors le parlant fait son entrée et Francesca Bertini saisit l'occasion en 1931 pour interpréter une princesse dans un film intitulé « La femme d'une nuit » du réalisateur français Marcel Lherbier qui sera repris en version italienne, donc par Amleto Palermi, sous le titre de La donna di una notte. Et après cette longue, productive et brillante carrière, elle s'éteindra en 1985 à l'âge de 93 ans. Alors je vais maintenant vous faire écouter une musique composée par Mario Pasquale Costa, le compositeur de la musique du film dans lequel a joué Francesca Bertini, et qui s'intitule comme le film lui-même « L'histoire d'un Pierrot ». Alors, je n'ai pas trouvé ce morceau que j'aurais aimé vous faire écouter, car ce qui était intéressant, parce qu'inédit, c'était à l'époque la tentative technique de lier l'action, donc l'image, avec la musique. Et j'aurais bien aimé trouver la bande-son qui correspond. Mais comme nous sommes en Italie, que la musique italienne est souvent séduisante et que celle de Mario Pasquale Costa rentre dans cette catégorie, eh bien j'ai décidé de vous faire écouter une autre de ses compositions, intitulée Era de Maggio, composée en 1885 par cet auteur-compositeur, qui fut également chanteur, lyrique et pianiste. Musique composée sur un poème d'amour du poète dramaturge Salvatore di Giacomo.
Era de marcet gadianzina Aschio cascio calici rasros Frescher l'aria e tutto lo giardino Durava rosa accende pass Era de maggio e no, non me ne scorda Una canzone cantava matto i voci Che il tempo passa e che una nalli corda Fresca era l'aria e la canzone Dice cor 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 mio lontano vai tu me lascia e con dolore chissà quando tornerai risponde via tornerai quando tornano li rose Si su giorno torna a maggio, pur a maggio, isto un cacca. Si su giorno torna a maggio, pur a maggio, isto un cacca. E mo come una volta cantammo insieme l'uomo ti vantica passa lo tempo e l'uomo ne sa volta ma amore vero non vuote vic da te bellezza mia e mi innamorai si dalli cuore non sa la fontana Quella tinta non si secca mai E ferita d'amore non si sana
Jolie mélodie, poursuivons maintenant notre route avec une autre italienne nommée Bianca Virginia Camani, née en 1885, qui fut actrice et réalisatrice. Alors elle est souvent présentée comme une femme éduquée, artiste, qui pratiquait la musique, notamment le piano, qui parlait plusieurs langues et se plaisait à fréquenter une élite composée d'écrivains et d'artistes. Or, comme beaucoup de ses congénères, elle fit ses premiers pas au théâtre en tant que comédienne, puis se tourna vers le cinéma lorsque celui-ci apparut, et ce fut au moment où se déroula la Première Guerre mondiale de 14-18. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle chercha avec volonté à occuper toutes les fonctions que nécessitait le cinéma, où elle imposait aisément son intelligence et sa sensibilité. Alors, c'est dire qu'elle se mêla avec facilité aux intellectuels qui construisaient le cinéma de l'Italie, ce début du XXe siècle, pour lequel elle s'investit pleinement. Et dans ce sens, elle collabora avec l'une des sociétés de cinéma les plus importantes de l'époque, le Milano Film, en participant notamment à transposer des opéras au cinéma. Elle écrira les scénarios, elle réalisera, jouera également en tant qu'actrice dans cette société de production, et aussi pour une autre, la Galatea Film. Alors j'ai lu une de ses interviews, traduite en français, qui aurait été réalisée en 1917. Elle parle du cinéma et avoue son amour absolu au 7e art et son besoin de se donner à fond à cet art en embrassant toutes les fonctions avec une totale liberté, ce qui corrobore ce que je vous disais plus haut. Et elle avouait facilement éprouver une grande joie à inventer, créer, trouver les intrigues, concevoir les scénarios, jouer la comédie, réaliser. Bref, elle nous apparaît comme une boulimique de travail, doublée d'une amoureuse passionnée pour ses activités. Et en tant qu'actrice, elle est apparue dans des films relativement importants et a été reconnue comme l'une des meilleures actrices de l'écran. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, comme vous l'avez compris, puisqu'elle connut le succès avec ses scénarios et ses réalisations. Alors en général, c'était de longs métrages muets, vu l'époque, autour de 50 minutes. Et je vais vous citer quelques titres, celui déjà du premier film qu'elle a écrit et réalisé en 1916, La Piccola Ombra, La Petite Ombre. Puis elle a fait le scénario de Il Figlio della Guerra, L'Enfant de la Guerre, toujours la même année. Et ce travail lui a valu un article élogieux dans un magazine où est souligné son talent, son intelligence et sa sensibilité. Alors le problème de ces films, c'est que malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à vraiment mettre la main dessus pour vous les présenter. Et de plus, je sais que la plupart ont été perdus. Bon, reste sa réputation qui milite en sa faveur. Alors je vais vous lire ce que le critique de cinéma Giorgio Hortensien aurait dit d'elle, et je lis que ces films étaient considérés comme le plus grand espoir du nouveau cinéma d'art. Alors malheureusement, avec les difficultés économiques liées à la guerre, elle n'a pu concrétiser tous ses projets, notamment de diffusion. Elle a commencé à subir, on va dire, quelques revers de fortune. Ce fut le cas pour un film intitulé Fantasia, qu'elle avait réalisé et produit en 1919 et dans lequel elle joua. Alors je n'ai pas réussi à savoir de quoi était fait l'intrigue. Il semblerait que l'histoire tourne aussi autour du personnage lunaire de Pierrot. Après la guerre en 1920, elle fondera sa propre société de production, la Camani Film. Et à partir de là, nous pouvons dire qu'elle jouera pleinement sur tous les tableaux. Alors je citerai La Sconosciuta, l'inconnue, de 1921. La Bella Nonna, la belle-mère. Il cuore e l'ombra, le cœur et l'ombre, de 1922. Mais malheureusement pour elle, et le cinéma italien peu prisé à l'étranger, elle ne put étendre son réseau de diffusion. Et apparemment, son aventure cinématographique cessa avec l'incendie dramatique de sa société de production. Alors l'Italie ne semble pas avoir de réalisatrice née fin du 19e siècle et début du 20e, comme vous pouvez l'entendre. Et moi-même, j'avoue être surprise car je ne peux pas dire que j'en ai beaucoup entendu parler. D'ailleurs, encore une se présente, nommée Elettra Raggio. Elle est née en 1887 et fut également actrice, scénariste et productrice. Alors elle aussi est une comédienne de théâtre avant de devenir une actrice dans des films pour la Milano Film. Puis elle réalisera à son tour, il est dit une douzaine de films, plutôt des drames, entre 1916 et 1926. Et elle fondera également sa propre société de production, la Raggio Film, en 1916. Alors ai-je épuisé le sujet des italiennes scénaristes, réalisatrices, productrices de ce début de XXe siècle? Bon, j'en ai peut-être oublié en effet. Malgré tout, pour l'Italie, pays dit machiste, je trouve que celles que je vous ai présentées se sont quand même bien exprimées avec une certaine liberté. Alors nous allons faire une petite pause musicale, le temps de rentrer un peu dans l'ambiance cinéma, grâce à une musique de film que j'ai trouvée en faisant des recherches sur l'actrice réalisatrice que je vais vous présenter après. Elle se nomme Elena Sangro et a joué dans un péplum de 1924 intitulé Covadis, qui peut être d'ailleurs regardé sur YouTube. Alors j'ai appris que la musique avait été composée par l'Italien Piero Giorgi. Alors je pense que c'est la bonne version. En tout cas, nous allons l'écouter, le temps de nous plonger dans la Rome antique, avec cet air bien spécifique pour le genre, avant d'aborder notre réalisatrice suivante. Place à la musique.
Thank you.
Alors, je vous présente maintenant Elena Sangrone et Maria Antonietta Bartoli Aveduti, qui est née en 1897 et fut donc également réalisatrice et actrice, surtout révélée pour ses rôles dans des longs métrages. Alors, Covadis, hein, ce péplum de 1924, réalisé par Gabriellino D'Annunzio, et Machiste aux Enfers de 1926, qui compte la descente aux enfers du héros. Alors, elle se lança dans le cinéma, car remarquée par un réalisateur nommé Enrico Guazzoni, qui l'employait dans un film historique intitulé Fabiola de 1918, qui est donc son premier film. Et l'année suivante, elle jouera Herminia dans La Jérusalem libérée. Alors, je l'ai regardée jouer dans ses films historiques et dois dire que sa beauté brune, un peu hiératique, se prête bien à ce genre de film. Alors, elle tournera en tant qu'actrice de 1918 à 1951 dans des longs métrages, films muets surtout, mais également dans des films parlants à partir des années 30 et fera encore une apparition en 1963 dans 8 et demi, un film réalisé par Fellini. Alors, l'écrivain italien Gabriel D'Annunzio, qui est le fils du cinéaste du même nom, celui qui a tourné Covadis, sans doute séduit amoureux, lui légua un poème érotique intitulé « Alla Piacente » de 1927, qui se traduit, je crois, au plaisir. Alors, elle a souvent changé de nom, hein, suivant ses activités. Elle fut connue sous celui de Lilia Flores lorsqu'elle se produisait dans des concerts en tant que soprano, car elle chantait aussi. D'ailleurs, elle fut réalisatrice assistante pour des films opéra. Et c'est en 1945 qu'elle fondera sa société de production, la Stella d'Oro Film. Et à partir de ce moment, elle produira surtout des documentaires sur l'art sous le pseudonyme masculin d'Anton Bia, dont Villa d'Este, qui est une ville située près de Rome, est décrite comme un joyau de l'architecture italienne et qui fait partie maintenant du patrimoine de l'UNESCO depuis 2002. Ce film, dans lequel apparaîtra pour la première fois la superbe actrice italienne Gina Lollobrigida, puis un autre documentaire intitulé « Dintorni di Roma » qui concerne les environs de Rome. Alors voilà que nous rencontrons maintenant des femmes nées le premier tiers du XXe siècle, hein, comme Maria Bassaglia, née en 1912, elle aussi réalisatrice scénariste italienne, qui débutera au cinéma dans les années 30 en tant que traductrice et directrice de doublage pour la société de production La Scalera Film. Celle-ci poursuivra sa carrière cinématographique dès 1939 comme scénariste, épousera dans la foulée un réalisateur nommé Marcello Albani, et tous deux dans la merveilleuse ville de Venise, qui me fait déjà rêver rien que d'y penser, travailleront pour un nouveau complexe cinématographique, le Cine Villaggio, encore appelé le Cine Sola, où elle sera surtout l'assistante de son mari ainsi que la scénariste. Alors, à cause d'histoire politique au moment du fascisme, le couple partira s'expatrier au Brésil pour ne revenir à Rome que dans les années 50. Et c'est à ce moment qu'apparemment, elle fera réellement ses débuts comme réalisatrice pour un premier film daté de 1953, une comédie intitulée « Sua Altezza ha detto no », bon, qui est traduit par « Son Altesse a dit non », dans lequel nous pourrons voir jouer un comédien réalisateur prometteur, devenu célèbre même hors Italie, Ugo Tognazzi. Alors ensuite, pour changer, elle tournera un drame en 1956, intitulé « Sangue di Zingara », le sang du Zigane, film sur lequel je n'ai pas trouvé grand-chose en information. La comédie tourne autour du milieu du spectacle et de stratagèmes qu'un fils déploie pour imposer son nouveau spectacle à son père, réalisateur lui-même, qui s'y oppose. Bon, c'est aussi le mystère pour les deux suivants réalisés en 57 et 58. Enfin, en tout, elle aura réalisé 4 films et écrit des scénarios de presque une dizaine de films. Et les 2 premiers films seront réalisés au Brésil, dans la société de production qu'elle fondera avec son mari. Et elle terminera sa vie en dehors du cinéma en tant que traductrice littéraire. Elle traduira notamment le livre de l'anglais William Peter Blatty, publié en 1971, qui fera l'objet d'un film d'horreur en 1973, film qui laissera sa marque dans les esprits sous l'intitulé de L'Exorciste et qui fut réalisé par le producteur américain William Friedkin. Voilà donc les réalisatrices, productrices, scénaristes, autant qu'actrices, que j'ai pu trouver début XXe siècle, à l'époque du cinéma muet. Alors, y en a-t-il d'autres, hein, peut-être ? En tout cas, l'émission prochaine, nous aborderons la vie de ces réalisatrices italiennes nées dans les années 30 et qui, autour des années 50, 60 ou plus, ont servi le cinéma italien. Et là, nous rentrerons dans le cinéma parlant. Alors, celles que je vous présenterai seront surtout des réalisatrices de documentaires. Enfin, nous verrons cela la prochaine fois. En attendant, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts, consacrée aux créatrices, en ce moment aux femmes dans le milieu cinématographique, et vous donne rendez-vous pour bientôt.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.